Jour en ce 28 novembre, c'est la fête de Saint-Jacques de la Marche. Je suis sûr que vous connaissez quelques-uns d'entre vous des Jacques la Marche. Ce serait leur patron de très près. Saint-Jacques de la Marche, un franciscain qui est mort en 1476, et c'est un des plus grands saints de l'ordre franciscain et pourtant si peu connu. C'est aussi la fête aujourd'hui du bienheureux Jacques Thompson, ou James Thompson, un prêtre martyr du 16e siècle en 1582, et aussi d'un autre martyr, le bienheureux André Trong, qui est mort il y a simplement 160 ans, en 1835, d'une vieille famille chrétienne vietnamienne qui est mort le 28 novembre 1835, donc à l'aube, il a été supplicié. Et on peut célébrer aussi aujourd'hui, surtout dans le monde intellectuel, Fernand Braudel. On me dira qu'est-ce qu'il vient faire, mais c'est que c'était un très grand historien de ce siècle qui est mort il y a 10 ans aujourd'hui, le 28 novembre. Je vous en dirai un mot, car son... une approche de l'histoire peut éclairer aussi l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'Église, finalement. Dans certains calendriers, on célèbre aujourd'hui Sainte-Catherine Labourée. Pourtant, l'Église célèbre Catherine Labourée le 30 décembre. Alors, pour satisfaire à la curiosité de bien des gens qui ont téléphoné, qui espéraient que nous parlions de Sainte-Catherine Labourée, je vais en dire quelques mots. Mais nous y reviendrons le 30 décembre pour en dire davantage. J'en ai glissé un mot il y a quelques jours, car le 27 novembre, j'en ai parlé avant-hier, la veille du 27 novembre, n'est-ce pas, c'était l'anniversaire de l'apparition importante faite à Catherine Labourée, apparition de Marie, qui a eu lieu donc en 1830, dans la chapelle de la rue du Bac. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'il y a un grand couvent, là, sur la rue du Bac à Paris, où une grande partie d'entre vous, j'imagine, êtes allés quand vous êtes allés à Paris. C'est un endroit où les chrétiens, les catholiques vont avec grand joie. C'est une chapelle qui appartient au couvent des sœurs de Saint-Vincent de Paul. Et je me souviens d'y être allé en 1950, et je vous en ai déjà glissé un mot. J'avais assisté à une cérémonie où la chapelle était pleine de ces religieuses. À la grande et immense coiffe blanche, ça donnait l'impression dans l'église, dans la chapelle immense, qu'il n'y avait que des colombes. Et car cette grande coiffe blanche était immense, et elle portait de grandes robes bleues. Elle portait ça depuis des siècles, depuis Saint-Vincent de Paul. Elles ont changé de costume depuis. Mais je me souviens, elles sont venues s'établir à Montréal. Et on pouvait les voir dans le fameux tramway d'Outremont, le tramway 29. C'était un tramway plutôt moderne, plus moderne que les autres. Et elles étaient assises le long des fenêtres. Et elles devaient relever leur coiffe le long de la fenêtre. Elles l'appuyaient contre la fenêtre. Et l'autre partie de la coiffe aurait coupé un peu le passage aux gens. Alors, de leurs mains, elles relevaient cette coiffe pour la mettre à la verticale, pour permettre aux gens de passer. Imaginez se promener avec des coiffes comme ça. Et elles se promenaient à bicyclette en France. Elles étaient, si je me souviens bien, très, très nombreuses, des dizaines et des dizaines de milliers par toute la France. On les voyait partout. Elles faisaient partie du paysage, ces religieuses, au point que, au début de ce siècle, quand un député français, M. Combes, a fait voter une loi pour chasser toutes les communautés religieuses de France, le gouvernement français, qui était très anticlérical à ce moment-là, n'a pas osé faire quitter ou chasser les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, car ce costume flamboyant faisait partie du paysage. Il y aurait probablement eu une révolution dans un sens, parce que elles étaient le symbole vivant de ce qui fait la sainteté et le véritable christianisme, c'est-à-dire l'amour du prochain, la charité, dans la joie, dans la sérénité. Sainte Catherine Labouré faisait donc partie de cette communauté. Et on peut dire que c'était une simple paysanne, n'est-ce pas, qui appartenait à une famille très nombreuse. Et l'Église façonne souvent ces gens très très simples, les transforme. Elle est née le 2 mai 1806. L'une de ses sœurs était entrée d'ailleurs chez les filles de la charité. Elle a entendu le même appel au fond de son cœur. Mais c'est avec peine qu'elle a réussi à vaincre l'opposition de son père qui voulait pas la laisser partir. Et finalement, elle est entrée justement au noviciat de la rue du Bac à Paris en avril 1830. Et c'est quelque temps après, au mois de novembre, qu'elle a eu cette apparition. Ce fut une religieuse toute simple, très pieuse, d'un dévouement tout à fait admirable, dit-on. Comme d'ailleurs le sont, à mon avis, la plupart des filles de Saint-Vincent-de-Paul, du moins toutes celles, moi, que j'ai connues, à Paris en particulier, mais un peu partout en France, étaient imprégnées de la pensée, de l'âme de Saint-Vincent-de-Paul et finalement de l'âme même de Jésus-Christ. Elles ont aussi comme fondatrice Sainte-Louise de Marillac. Et les saints authentiques ne sont pas tous inscrits au martyrologe. C'est plein de saintes dans cette immense congrégation. Et ce qui avait attiré l'attention sur Catherine, c'était évidemment les apparitions de la Vierge Marie, dont elle a bénéficié, qui n'ont été révélées que longtemps après que ce soit survenu, parce que son directeur de conscience était très hésitant. Elles ont eu lieu durant le noviciat de cette sainte. Imaginez une novice qui a des apparitions de la Sainte Vierge dans une congrégation. C'est assez pour la renvoyer, ça, dans la plupart des communautés, j'imagine. C'était très, très, très compliqué. Alors, au cours d'une de ces apparitions, la Sainte Vierge s'est présentée debout et écrasant un serpent. D'autres éléments complétaient cette sorte d'icône vivante, un grand tableau vivant, hein, qui laissait aussi la place à des symboles. Ça se trouvait dans un ovale, et au-dessus, il y avait ces mots, « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Et alors, une voix s'est fait entendre, racontait Catherine Labouré, il lui était demandé, de faire frapper une médaille sur ce modèle, et ce fut la célèbre médaille miraculeuse. Je suis sûr que de nombreux auditeurs et de nombreuses auditrices portent cette médaille. Moi, je l'ai portée toute ma vie, je la porte toujours. Ma mère m'en avait donné une quand j'étais tout jeune enfant, et je ne m'en suis jamais défait. Entre autres bienfaits, on sait que la médaille miraculeuse a joué un rôle très, très important dans une des grandes conversions du siècle dernier, celle d'Alphonse Ratisbonne, qui a fondé, avec son frère Théodore, la nouvelle famille religieuse que l'on appelle Notre-Dame de Sion à l'époque, et qui existe toujours. Une congrégation dans laquelle sont entrés de nombreux juifs catholiques, d'éminents juifs catholiques, aux connaissances multiples et vastes, des juifs admirables, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de gentils, comme on dit, qui sont épris de la pensée juive et de l'âme juive, qui est à l'origine, je le rappelle, de notre propre religion. Et quant à Catherine Labouré, elle a vécu longtemps encore. Elle a gardé le silence sur ses apparitions. Elle s'est employée aux tâches les plus simples, les plus humbles. Elle a toute sa vie donné un exemple d'effacement et de charité. Elle est morte le 31 décembre 1876, âgée de 70 ans. C'est pour ça qu'on la célèbre le 30 décembre, malgré certains calendriers qui indiquent sa fête pour aujourd'hui. Son corps est resté intact, comme celui de Sainte Bernadette Soubirou, la petite voyante de Lourdes. Vous savez qu'il y a de nombreux saints et saintes dont les corps sont intacts. C'est un des grands miracles dans l'Église catholique. et son corps est exposé à la vénération des fidèles dans la chapelle de la rue du Bac à Paris. Et maintenant, nous abordons le saint du jour selon le calendrier, Saint Jacques de la Marche, de franciscain décédé en 1476. Oh, j'ai oublié de m'identifier au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Saint Jacques de la Marche, c'est vraiment un des plus grands hommes de l'ordre franciscain. C'est un disciple de Saint Bernardin de Sienne, ce grand saint dont je vous ai parlé le 19 mai, il y a bien longtemps. Mais c'était un ami de Saint Jean de Capistran, dont je vous ai parlé aussi le 23 octobre. Nous avions consacré presque toutes ces émissions du 19 mai et du 23 octobre à ces deux grands saints franciscains. Et Saint Jacques de la Marche était passionné pour le culte du nom de Jésus, comme Bernardin de Sienne d'ailleurs. C'est un prédicateur qui a prêché partout presque, en Italie, en Dalmatie, en Bosnie, dont il est tellement question ces jours-ci, en Bosnie, en Hongrie et en Bohême, c'est-à-dire en Tchécoslovaquie, si vous voulez, et en Pologne. Et c'était un adversaire convaincu de cette hérésie des fraticelles dont je vous ai parlé quelquefois. Ce sont de malheureuses personnes très sincères, au fond, les gens comme les fraticelles. Ça existe encore aujourd'hui. Ce sont ça existe pas sous le nom de fraticelles, mais ce sont des phénomènes qui existent toujours. Ce sont de faux mystiques, au fond. Des gens qui s'imaginent être mystiques, mais qui sont un peu malades sur les bords. Et c'est très délicat de savoir où se situe la véritable âme chrétienne dans tout ça. Qui est vraiment chrétien? Qui est vraiment catholique? C'est pas facile. C'est très délicat. Et Saint Jacques de la Marche était d'autre part un pacificateur de toutes sortes de populations qui s'insurgeaient les unes contre les autres. Et ça peut vous surprendre peut-être, mais ça a été aussi un prédicateur important de la croisade. Il faudra revenir un jour sur le problème des croisades. J'aimerais beaucoup qu'on sache pourquoi il y a eu des croisades et comment ces croisades ont mal tourné et des gens très égoïstes qui n'avaient rien de chrétien finalement au fond de leur cœur. Vous savez qu'il y a des gens qui vont à la messe et qui ne sont pas chrétiens. On n'a pas à les juger, mais c'est dommage, il y a des gens qui s'affichent comme chrétiens et qui malheureusement ne le sont guère, ne le sont pas. Dieu seul sait, mais parfois on se demande comment il se fait que certaines personnes qui sont des criminels notoires, hein, ont des funérailles dans nos églises avec des 10, 15 et 20 chars de fleurs. Hein. Tout ça est très inquiétant. Mais que voulez-vous qu'on y fasse? C'est comme ça. Et cet homme, Saint Jacques de la Marche, est mort plus qu'octogénaire. Sa vie a été remplie de charges et de prédications, puis elle était semée de miracles. Donc, il est né le 1er septembre, 1394, croit-on, pour ce qui est de l'année. Mais en tous les cas, il est né un 1er septembre à Montepradone. Je donne les noms, car il y a des Italiens qui m'écoutent et qui reconnaîtront peut-être leur village natal, ou du moins des régions dans lesquelles, d'où ils viennent. À Montepradone, c'est actuellement province d'Ascoli Piceno, dans le diocèse de Ripatranzone. Et c'est dans les marches, ça. D'une famille assez pauvre, il a été baptisé Dominique. Le nom de son père était Rufo, sa mère s'appelait Tona. Comme on a tellement d'Italiens qui s'appellent Tony aujourd'hui, sa mère s'appelait Tona. Et après avoir étudié à Ascoli, Offida et Pérouse, ou Perugia, il a été maître d'école. Il a même exercé quelque temps un office de juge. Puis là, tout ça, ça s'est mis à ne plus l'intéresser. Et dans un mouvement extrêmement contraire, ce qui arrive souvent chez des convertis, ils sont déjà catholiques, mais ils se convertissent intérieurement. On peut dire que l'Esprit Saint, tout à coup, s'empare d'eux. Probablement à la suite de leur propre prière, hein. Une prière que je recommande à tout le monde, c'est de crier dans le fond de son cœur, « Esprit Saint, prends-moi. Prends-moi, j'en ai marre d'être moi-même. Plat, morne, trouble. Prends-moi, change-moi. » Alors il a pensé, notre Jacques de la Marche, ou Dominique, de se faire chartreux à Florence. Oh, la belle chartreuse de Florence, il faut la visiter. Hein. Je me souviens de l'avoir déjà visitée un jour. Et comme c'était un monument historique, les chartreux étaient obligés d'accepter quiconque voulait la visiter. Et il y avait là une Française, en costume deux pièces, c'est-à-dire un short et une brassière. Imaginez, rentrer dans une chartreuse habillée comme ça. Mais le chartreux n'a jamais déposé son regard sur cette femme. Il a fait comme s'il n'était pas là. Il l'a complètement ignorée, tout en expliquant l'architecture admirable de cette chartreuse, très sobre, très très belle. Et j'étais très ému par la délicatesse de cet homme, qui ne pouvait pas lui dire de s'en aller, puisque c'est un monument historique, financé par l'État. Alors il a pensé se faire chartreux à Florence, mais Saint-François, dont je vous ai parlé aussi, Saint-François d'Assise, au début d'octobre, on a consacré toute une émission à ce grand saint bien, Saint-François, l'âme de Saint-François l'a conquis brusquement, puis là il a reçu l'habit des franciscains, que l'on appelle souvent les mineurs, les petits, les mineurs, à Sainte-Marie-des-Anges, à Assise même, le 25 juillet 1416, il avait 22 ans. Vous direz, comment ça? Il avait un office de juge à 22 ans, mais oui, regardez, en France, il y a des... c'est pas des juges comme ici, hein. En France, il y a de jeunes juges, là. On les voit à la télévision, ils sont tout jeunes, ils sont dans la vingtaine, ils mènent des combats extraordinaires contre les injustices sociales, et ils font partie des tribunaux. Ces juges, dans un autre sens, font des enquêtes. Alors, plus tard, en évoquant Saint-Bernardin de Sienne, Jacques de la Marche s'est écrié, « Ô bon père, je me rappelle quand j'étais novice, tu m'as taillé de tes propres mains ma première tunique. » C'est une façon de parler. Hein? C'est que Jacques de la Marche était très marqué par Saint-Bernardin de Sienne. Il a fait profession à Sainte-Marie-des-Anges, à Assise, là où il était entré, puis il aurait aimé y être enterré. Mais en 1421, il perdait sa mère. Puis l'année suivante, il offrait à Dieu sa première messe. Il a commencé à prêcher, il avait 26 ans. Le frère Jacques, de la Marche, était un des principaux disciples, donc, de Bernardin de Sienne, avec les bienheureux Mathieu de Girgenti et Albert de Sarteano. Les mois, autour du nom de Jésus, dont le culte semblait quelques-uns un peu entachés d'excès, on vénérait le nom de Jésus. Faut dire que ça vient des épîtres de Saint Paul, hein, où le nom de Jésus, tout fléchit devant le nom de Jésus. Hein. Et alors, ce culte débordait largement l'Italie, jusqu'à Breslau en Allemagne, à Barcelone, à Vic et à Burgos, dans toute la péninsule de l'Espagne et du Portugal, hein, la péninsule ibérique. Jeanne d'Arc était en France témoin de ce nom béni. Et vers 1427, il était question même, c'est trop de choses étranges, hein, de brûler Saint-Bernardin. Imaginez, on n'y allait pas de main morte. Alors Jacques de la Marche a écrit au pape Martin V, aux cardinaux, en faveur de Saint-Bernardin qui a triomphé de ses adversaires. Le 11 octobre 1426, d'ailleurs, le pape avait accordé à Jacques de la Marche la permission de prêcher par toute l'Italie contre les fraticelles et les autres qui étaient plus ou moins en dehors de l'Église à cause de certaines hérésies qui pullulaient à l'époque. Et il faudra aussi parler un jour de toute cette question de la façon dont l'État et l'Église exerçaient un certain pouvoir à l'égard de ceux qui ne pensaient pas, comme les chrétiens catholiques qui reconnaissaient vraiment le pape. À Recanati, notre Jacques de la Marche a fait adopter des règlements pour les bonnes mœurs. Et ailleurs, il obtenait la démolition d'un château qui était la citadelle pour les fraticelles, hein, des extrémistes là, qui prônaient sur la pauvreté et bien d'autres questions, des théories complètement fausses et qui détruisaient souvent bien des familles. Alors, le 1er avril 1432, Jacques de la Marche a été nommé commissaire en Bosnie, où l'on envoyait l'élite des religieux. Et après une rencontre avec le pape Eugène IV à Florence, il est retourné comme vicaire en cette région pour un dur travail de réforme et de restauration. Et là, le roi Tuertko lui a concédé l'entrée de son royaume, mais la reine tentait de faire tuer notre Jacques de la Marche. Alors, il a laissé la Bosnie, et le roi, par crainte de l'empereur Sigismond, l'a réclamé. Mais là, le frère Jacques écrivait contre les manichéens et tous les autres hérétiques, et il trouvait moyen de réconcilier les bohémiens avec les pères du concile de Bâle. En janvier 1436, il était encore en Bosnie, et puis il a cherché à supprimer des abus. Il a été nommé inquisiteur, c'est-à-dire enquêteur, c'est ce que ça veut dire, en Hongrie et en Autriche. Il y avait là, dit-on, des hérétiques bohémiens, c'est-à-dire, ils étaient pas bien méchants ceux-là, qui étaient réfugiés en Hongrie, qui complétaient contre Sigismond et les catholiques. Il les a combattus, mais sans trop de vigueur. Et plusieurs couvents ont été fondés par ses soins. Deux en Bohême, trois en Hongrie, trois en Autriche. C'était un homme extrêmement actif, un peu comme Thérèse d'Avila, qui fondait des carmels un peu partout. Et en 1437, le pape Eugène IV l'a autorisé à nommer des inquisiteurs en Hongrie, en Bohême, contre les Hussites. Ces pauvres Hussites qui ont été tellement persécutés par nous, les catholiques. Ils n'étaient pas bien méchants, ces Hussites. Ils étaient des chrétiens très désireux de bien faire, sous la conduite de Jean Hus, ce prêtre catholique dont je vous ai déjà parlé, que je considérerais dans un certain sens comme une espèce de saint en dehors de l'Église. Un de ces hommes qui ont été en but et dans des moments de l'histoire difficiles. Et d'ailleurs, le pape Jean-Paul II a posé des gestes extrêmement courageux à l'égard de Jean Hus et des Hussites, car il y a encore des Hussites, des descendants de Jean Hus, ces pré-protestants qui sont pas vraiment des protestants. C'est très délicat. Il faudrait revenir un jour sur toute cette question bien difficile. Alors, l'empereur Sigismond a invité Jacques de la Marche à l'accompagner dans une campagne contre les Turcs et les musulmans, et il lui a concédé des pouvoirs énormes. Alors, notre franciscain luttait pour faire observer le célibat ecclésiastique qui était en grave danger à certains moments dans l'histoire de l'Église. Il l'était en particulier à ce moment-là. Et le 14 avril 1438, Eugène IV, le pape, l'a encouragé à poursuivre son apostolat, malgré les ennemis de tout genre qu'il y avait partout. Mais le 20 octobre, il lui reprochait de ne pas se présenter au vicaire du Christ, de ne pas se présenter devant lui. Il lui ordonnait de se rendre à Ferrare. Et là, le frère Jacques de la Marche, qui sortait de Hongrie, était à Bologne, en Italie. Il a assisté au concile de Ferrare. Le 1er décembre, le pape l'a réexpédié en Hongrie. Imaginez les voyages. Ou en 1439, il y a une paix qui a été conclue à Budapest entre les Hongrois et les Allemands. Et c'était en grande partie grâce à lui. Après un an de travail dans ce pays, notre frère Jacques de la Marche s'est rendu auprès du pape à Florence en janvier 1440 parce que le climat en Hongrie était trop dur pour sa santé. Il n'en pouvait plus. Vous allez voir ce qu'il a fait en Italie. Absolument fantastique. Nous verrons ça tout à l'heure. Alors nous continuons avec Jacques de la Marche, j'achève, c'est une vie tellement étonnante, mais nous allons aller un peu vite sur ce qui s'est passé en Italie avec ce grand franciscain qui a prêché le carême à Padoue, puis sur sa demande, il est parti pour l'Orient, c'était en 1440, il avait 46 ans. Alors il est tombé malade à Chypre, puis il est revenu en Italie, et en juin 1441, l'année suivante, le pape l'envoyait dans les marches contre les fraticelles, encore une fois. Alors, il a passé, passons rapidement, 3 jours très heureux dans sa vie, on peut dire, à un moment donné, du 30 avril au 2 mai 1444, je blague un peu, parce qu'il est resté là 3 jours avec son grand ami Bernardin Sienne et Jean de Capistran aussi, tous les deux, imaginez, au couvent du lac Trasimène, ces deux grands saints qu'il aimait tellement. Plus tard, le 18 jours plus tard, le 20 mai, Dieu lui a révélé, au fond de son cœur, alors qu'il était loin, la mort de saint Bernardin Sienne. Et en 1445, l'année suivante, il a fait des prédications en Ombrie, donc dans la région d'Assise, quoi. Il a prêché à Pérouse. Et là, il a enfin convaincu les fraticelles de revenir à l'Église, les fraticelles de cette région, ces faux mystiques. Il a établi une compagnie de Saint Jérôme, dont il a dicté les statuts. C'était un groupement, justement, pour les aider. Et là encore, il a donné l'habit au bienheureux Bernardin de Fossa, dont je vous parlerai un jour. Et après un temps de maladie, il est devenu vicaire de la province d'Ancône. Et là, le pape Nicolas V l'a envoyé encore contre les fraticelles de la région des Marches d'où il venait. C'était en 1449. En 1450, c'était l'année jubilaire. Il avait 56 ans. Une année jubilaire, c'est une année, comme il y en a tous les 50 ans, où le pape convoque tous les catholiques de la terre à venir au tombeau de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Alors, les gens viennent en quantité. C'est fantastique. En 1950, moi, je suis allé à Rome comme ça, passer un mois et demi. C'était extraordinaire. Les foules venaient de partout. Le jour de Pâques, à la messe du pape Pie XII, la grande messe papale, il y avait sur la place Saint-Pierre au minimum 700 à 800 000 personnes, sinon 1 million, car c'était inimaginable. Ça se rendait jusqu'au Tibre, jusqu'au fleuve, compacte des foules de toutes les parties du monde, et nous avions chanté d'un seul cœur le credo entonné par le pape lui-même. Nous l'avions chanté en latin, en chant grégorien. Cette foule qui chantait d'un seul cœur, c'était bouleversant. Alors en 1450, donc ce fut une année jubilaire, alors là, on a vu 3800 franciscains qui ont afflué ensemble à Rome. Il y avait notre frère Jacques de la Marche, évidemment. Et puis, il a prêché, puis dans les marches, il était saturé d'ennui. Il a demandé à repartir pour la Bosnie, puis pour la Dalmatie en 1452, mais son apostolat l'a retenu en Italie. En 1454, il y a eu la joie de poser la première pierre d'une église qui était dédiée à son ami Saint Bernardin, qui était mort en 1444 et qui a été canonisé 6 ans plus tard. Et cette église, donc, pouvait être construite en 1454. Et je passe outre pour le retrouver à 81 ans, au 10 octobre 1475. Il est venu, tellement malade, assis sur un mulet, sur ce qu'on appelle un cacolet. Le mulet pouvait transporter comme ça 2 personnes assises sur ces sièges qui étaient sur les flancs du mulet, donc sur un cacolet. Et il est venu jusqu'à Aquila pour vénérer le corps de Saint Bernardin. Il avait la permission du roi de Naples, qui gardait jalousement notre Jacques de la Marche, qui était un faiseur de miracles. Et son prestige datait de 1467, c'est-à-dire de 8 ans plus tôt, car on l'avait vu libérer une possédée devant le duc de Calabre lui-même et ses troupes. Il avait accompli ce miracle devant une foule. Dans Aquila, le 12 octobre 1475, donc Jacques a prêché à Saint Bernardin dans cette église, puis sur la place, il a glorifié le nom de Jésus, et il a allégué quelques 60 miracles obtenus, avec une mémoire impressionnante, qui citait les généalogies des personnes guéries jusqu'à 5 générations. Il avait une mémoire fantastique de tous ces miracles qui s'étaient accomplis par son intercession, au fond, mais surtout les miracles accomplis, évidemment, par Dieu, car il ne disait pas que c'était lui qui les faisait. Il y avait près de 40 000 auditeurs et auditrices qui guettaient sa descente de la chair pour le toucher. Mais on le faisait disparaître immédiatement dans l'évêché pour lui éviter d'être étouffé par la foule, tellement ses miracles étaient reconnus. Tout le peuple voulait un nom de Jésus écrit sur sa main. Et des frères écrivaient les IHS, n'est-ce pas, les trois lettres IHS, sur les mains des gens à la place de Jacques de la Marche. Et lui se contentait de les toucher. Et puis, comme on le suppliait de demeurer, il disait « Je n'ai pas la permission de Monsieur Luc ». C'est-à-dire, c'était un surveillance à qui il avait. Il disait « Je n'ai pas la permission de Monsieur Luc pour rester après tel jour ». Et en partant, il recommandait l'église de Saint-Bernardin. Et puis, une mule emportée encore dans un cacolet avec le frère Venance, son futur biographe. Et alors, ils étaient assis dos à dos sur le mulet. Et c'est ainsi qu'il racontait un peu sa vie à ce frère Venance qui a écrit sa vie. Il est mort à Naples le 28 novembre 1476. Il a été enterré à Sainte-Marie-Neuve et c'est Urbain VIII qui l'a béatifié dès 1624, donc 50 ans après sa mort. Et Benoît XIII l'a canonisé un siècle plus tard, en 1726. Pendant plus de 30 ans, de 1431 à 1464, il a parlé, imaginez, tous les jours, dans les villes, les villages. Le soir, il se préparait tout simplement une petite écuelle, une demi-écuelle de fèves. Le matin, il glissait sa ration dans une besace, un petit sac en bandoulière, là, avec du pain, du sel, de l'ail, un bon italien, de l'ail, et des ciboules. Et parfois, c'était des sermons de combat. C'est à Camerino qu'on dit que Jacques de la Marche a ameuté contre André de Cascia, de l'ordre de Saint-Augustin, toute la ville, qui était fascinée par cette dispute entre deux moines. Tout le monde criait de mettre au feu et à mort cet André de Cascia, ce moine de Saint-Augustin, imaginez. Parce que André, ce moine, s'élevait contre le culte du nom de Jésus. Et il trouvait que notre Jacques de la Marche était digne d'être appelé un antichrist. Ce moine était un peu malade, ce moine de Saint-Augustin. La bienheureuse Rita de Cascia, Sainte Rita de Cascia, dont je vous ai parlé le 22 mai, eh bien c'était vers 1423, a entendu la prédication ardente du jeune frère Jacques à l'époque, qui avait à peine trentaine, même pas 30 ans. Et si quelquefois il citait Dante ou Jacopone de Todi, je vous ai parlé de Dante le 13 septembre dernier, on a consacré presque toute l'émission à Dante, eh bien, il citait ses grands maîtres, sa manière, lui, était quand même beaucoup plus populaire. Il était cultivé, mais il n'en faisait pas état. Il était simple, il était direct. D'ailleurs, les brouillons manuscrits de ses sermons présentent un langage plutôt libre, un langage plutôt cru même, on pourrait dire, ce qui surprendrait aujourd'hui. Pour tenir bon là, dans ce dur métier de prédicateur, Saint Bernardin, d'ailleurs, lui avait conseillé de manger de la viande, mais Saint Jacques de la Marche jeûnait tous les jours. D'ailleurs, il faisait, paraît-il, 7 carêmes par an, et chaque nuit se flagellait. Chaque jour, il récitait un rosaire, c'est-à-dire 3 chapelets. Pendant 18 ans, il a porté un cilice sur sa chair. Il veillait tellement la nuit qu'il tombait parfois de sommeil dans sa prière durant la nuit. Il avait le don des larmes, qui est un don très répandu chez beaucoup de saints, c'est-à-dire que les larmes coulent d'abondance. Ça peut être de l'hystérie. Attention, attention. Mais ça peut être aussi le don des larmes, c'est-à-dire d'une âme qui est dans la joie, dans la paix, et ses larmes jaillissent comme pour exprimer cette joie, cette paix. C'est très curieux. On dit, mais pourquoi des larmes? C'est un don. C'est très particulier. C'est très spirituel, mais il faut faire bien attention. Et pour gagner du temps, donc, il dormait un peu le soir. Il se levait quand les frères, eux, allaient se coucher très tôt, d'ailleurs. Et depuis qu'il était religieux, on a dit que sa chasteté avait été absolument sans défaut, ce qui ne l'a pas empêché d'être tourmenté par des tentations charnelles qui ont duré plus de 30 ans. Il a combattu ces tentations-là vaillamment, dit-on. Il en a été délivré, d'ailleurs, d'un seul coup, à Sainte-Marie de Lorette, où était la maison de Lorette. On parlera un jour de ça, cette maison prétendument celle de la Vierge à Nazareth. À 1000 ans, il a payé la dot, puis il a marié 36 prostituées un peu respectables. Il arrachait en somme ses prostituées à cette vie pénible, dramatique, où les hommes abusent de ces femmes de façon abominable, et elles étaient pauvres, alors il leur réussissait à faire des quêtes, à leur fournir la dot nécessaire pour qu'elles puissent se marier, car c'était la coutume à l'époque. Il y a quelques années, les femmes se mariaient avec une dot que payait le père de la jeune fille. C'est des coutumes très anciennes. Alors, faut pas trop se surprendre de ça. Donc, il en a marié 36 comme ça. Il a été empoisonné 2 ou 3 fois par les fraticelles et d'autres personnes qui avaient malheureusement quitté l'Église. Il a été assailli 20 fois, à coups de couteau ou par des armes, mais on n'est pas parvenu à le tuer. Car il prêchait ce qu'on appelle la vérité. Il s'est élevé notamment à Foligno. Ce sera bientôt la fête de Saint-Angèle de Foligno, là, le 4 décembre, nous en parlerons. Alors, notamment à Foligno, en 1445, il s'est élevé contre les emprunts usuraires, malheureusement que les Juifs pratiquaient à l'époque, et ils chargeaient des taux d'intérêt exorbitants. Mais c'était une époque aussi où les Juifs n'étaient pas très bien traités, ils n'avaient pas le droit, je crois, d'avoir des terres. Alors, leur seule façon de faire de l'argent, c'était d'en prêter. Et c'est nous qui les avons placés dans cette situation pénible. Ils étaient réduits à vivre dans des ghettos. Alors, il faut pas trop blâmer les Juifs, il faut faire attention. Comme Saint-Jacques de la Marche reposait un peu un jour au couvent de Trasimène avec son grand ami Saint-Bernardin de Sienne, il reçut un ordre du pape qui l'envoyait prêcher à Gubbio, vous savez, le fameux Gubbio, là, où était le loup de Gubbio. Alors, il est allé trouver Saint-Bernardin. Il lui a dit, « Père, je vais à Gubbio prêcher sur l'ordre du pape. Donnez-moi, s'il vous plaît, votre bénédiction. » Et Saint-Bernardin s'est récusé, car il admirait tellement Jacques de la Marche, et notre frère Jacques de la Marche a obtenu la bénédiction. Et alors, il a dit, « Et vous, père, où irez-vous ? » Et Bernardin Tienne a dit, « Je m'en veux aller au royaume. » Alors, Jacques de la Marche a pensé qu'il voulait s'en aller au royaume de Naples. Et puis, c'était pas ça. Et alors, un matin qu'il prêchait, il s'est interrompu, le temps d'un miserere. C'est le psaume 50, ça. C'est le temps que ça prend pour réciter ce psaume. Le temps d'un miserere. C'est une vieille expression catholique, ça. Et alors, il a dit, pendant cette prédication, après son silence, il a dit, « En ce moment, vient de tomber une grande colonne. » Alors, le sermon fini, il est allé pleurer au couvent. Et on s'est rendu compte qu'il voulait dire que Saint Bernard de Sienne venait de mourir. Et on lui a dit, « Mon père, comme tu es parti... » Il a dit, c'est-à-dire, « Mon père, Bernard de Sienne, comme tu es parti... » Tu m'as dit que tu voulais aller au royaume. Je croyais que c'était de Naples et tu t'en es allé au royaume de la vie éternelle. Et tu m'as laissé dans toutes ces infirmités, dans toute cette vieillesse, en cette vallée obscure, en ce monde périlleux, en ce monde misérable. Prie Dieu pour moi. Il n'avait pas une vision très très positive de notre monde, mais il faut dire qu'il vivait à une époque difficile. Peut-être plus difficile que la nôtre aujourd'hui, malgré tout ce qu'on en pense. Donc Saint-Jacques de la Marche était un obéissant aussi. Un jour qu'il prenait son repas, on lui apportait un ordre du pape qui l'envoyait en Hongrie. Imaginez, il a levé son verre pour boire et il a reçu l'ordre. Alors il a redéposé son verre, il n'a pas bu et il est parti tellement il obéissait à la seconde près. Je me souviens quand j'étais novice à Saint-Benoît-du-Lac dans les années 40, on nous enseignait qu'au son de la cloche, on devait déposer un stylo, une plume à l'époque, comme on disait, avec laquelle on pouvait être en train d'écrire, et on devait déposer ça au premier son de la cloche, même si on était au milieu d'un mot, afin de ne pas commencer à légèrement désobéir à la règle. Et là, on était un peu sévère, je crois. Mais il est vrai que le moine ou le religieux qui commence à désobéir perd souvent le goût, la saveur de sa vie, qui est faite de dons de soi. Hein. Vers la soixantaine, et même avant d'ailleurs, Jacques de la Marche a souffert de bien des infirmités. Il souffrait de la goutte du pied. C'est terrible ça, la goutte. Il y avait des douleurs au flanc. Il souffrait de coliques. Il y avait même une pierre au rein. On dit que il souffrait aussi d'estomac triste et d'une grande inflammation du foie. Il y avait des flux de sang qui l'attaquaient de toutes parts. Notre-Dame de Lorette, on dit, l'a guéri sur ce dernier point. Ses dents étaient tombées. Le plus dur, c'est qu'il ne pouvait dormir. Oh, vous qui souffrez d'insomnie, pourriez peut-être l'invoquer. Il a connu ça. Il ne pouvait pas dormir. 6 fois, il a reçu l'extrême onction, tellement il a souffert, hein, longuement. Quand il s'est vu mourir pour de bon, il a dit au gardien du couvent, c'est-à-dire au supérieur, si vous voulez, du couvent, les franciscains appellent ça un gardien, « Mon père gardien, je te prie de me recommander à tous les frères, qu'il prie Dieu pour moi, car il se termine ma vie. J'ai grand peur de cette colique. Si elle me prend encore une fois, elle me tuera. Mais si c'était la volonté de Dieu, je ne voudrais pas mourir de cette maladie, car c'est une douleur si grande et si insupportable qu'on ne peut pas se préparer avec la dévotion qu'on devrait avoir, mais néanmoins, que la volonté de Dieu soit faite. Je suis content de ce que veut Sa Majesté. Priez Dieu pour moi. » Et là, le 5e jour, vers minuit, on lui a dit que la mort était proche, alors il a répondu, « Non, je me sens fort. » Cependant, il s'est confessé, il a demandé à boire, puis il a reçu la communion. Là, il a demandé pardon pour ses mauvais exemples. Il a exhorté ses frères franciscains à aimer Dieu, à respecter la règle. Ça peut paraître drôle, respecter la règle de nos jours, mais je crois que ça demeure très important. L'esprit, en tous les cas, de la règle. Pas de suivre la règle d'une façon méthodique et qui tue, mais suivre la règle d'une façon qui libère, qui grandit, qui anime. Alors la soif torturait Saint Jacques de la Marche. Mais il n'a pas voulu boire tout de suite par respect pour le sacrement qu'il recevait souvent. Et après 20 minutes, il buvait. Et pendant 1 quart d'heure, il a souffert horriblement avant de mourir. Il gémissait « Jésus béni, Jésus, Marie, la passion du Christ béni ». Alors il appelait sans cesse Jésus au secours. Et frère Venance, notre biographe, là, on dit que il a demandé au frère Venance de lui prendre ses mains dans les mains. Puis il lui a dit, « Oh mon fils, je sens les douleurs de la mort, prie Dieu pour moi. » Alors le frère Venance lui a dit, « Père, ayez bon courage, ne craignez rien, vous êtes bien prêt. Appelez Jésus béni à votre aide. » Et là, le frère Venance demandait pardon à son maître. Il disait, « Ne m'oubliez pas, pauvre que je suis. Dans tous mes besoins, je vous appellerai, vous invoquerai, vous prierai selon mes nécessités. » Et Saint Jacques a répondu en pleurant, « Mon petit-fils, pardonne-moi les mauvais exemples, les peines et les déplaisirs que je t'ai donnés. Je t'ai repris souvent. Je t'ai gourmandé, c'est-à-dire je t'ai semoncé, si vous voulez, parce que je t'ai voulu du bien. Merci de m'avoir servi et honoré, plus que je ne mérite. Toujours, je prierai Dieu pour toi et toi, prie Dieu pour moi. » Et là, il a béni le frère Venance. Ça me rappelle des vieux souvenirs, ça, quand il dit « Je t'ai repris semoncé parce que je t'ai voulu du bien. » C'est mon fils qui me disait « Tu me refais toujours des reproches. » Je lui ai dit « D'accord, je t'en ferai plus. » Et au bout d'une semaine, il m'avait dit « Tu me dis plus rien, tu me dis plus quoi faire, tu m'aimes plus. » Il avait compris qu'être repris, c'est un signe d'amour de son père. Alors le frère Venance l'a recommandé, lui recommandait, c'est-à-dire le pape. Il dit « Priez bien pour le pape qui vous aime tant, pour les cardinaux, même pour le roi, pour la duchesse, pour leurs enfants, pour les seigneurs, pour la ville, pour tout le monde. » Alors les frères franciscains qui étaient arrivés ont fait la recommandation de l'âme de Saint-Jacques. Il souffrait, il appelait Jésus. Et le frère Venance et lui appelaient Jésus ensemble. Alors ils ne pouvaient plus parler à un moment donné. Alors ensemble ils ont levé leurs mains unies. Et Saint-Jacques, mourant, portait ses regards au ciel avec des larmes. Il a fait 3 fois cette élévation, puis il a lâché à un moment donné les mains du frère Venance, puis il est mort jeudi 28 novembre 1476. Il avait beaucoup prié pour que lui fût enlevé le don des miracles. Il n'aimait pas faire des miracles, mais il n'a jamais été exaucé. Jusqu'à la vieillesse, il était recherché par tout le monde à la manière d'un porte-bonheur. Le frère Venance déclare qu'il a vu le frère Jacques, Saint Jacques de la Marche, de ses yeux, libérer plus de 30 possédés. Il guérissait, dit-on, toutes sortes de maux, et il était recherché comme un très très grand saint et un thaumaturge. Alors nous sommes de retour, et maintenant nous allons compléter cette heure de rencontre spirituelle avec le bienheureux James Thompson, ou Jacques Thompson, qui se faisait appeler aussi Hudson. Il était originaire de la ville d'York, dans le sud de l'Angleterre. Il a passé la plus grande partie de sa vie, d'ailleurs, dans la ville d'York, ou York. En 1880, il a traversé la Manche, il est allé en France, il est allé à Reims, en Champagne, pour faire des études de théologie. Et comme sa santé faiblissait rapidement, on a demandé une dispense à l'évêque pour l'ordonner prêtre le plus vite possible. Il était ordonné après très peu d'études. Il faut dire qu'il était déjà assez renseigné. Et on l'a envoyé en mission anglaise, comme on disait, dès l'année suivante, en 1581, c'est-à-dire d'aller rendre service à tous ces Anglais qui étaient demeurés catholiques, en dépit de la séparation de ce qu'on appelle l'Église d'Angleterre, l'Église anglicane. Il a pu y travailler pendant 1 an, sous le nom justement de Hudson, et alors il a été arrêté en août 1582 dans la maison de quelqu'un qui était lui-même, à ce moment, prisonnier à cause de sa foi catholique. Alors notre bienheureux Thompson a été traduit devant un conseil. Il a reconnu sans embâge qu'il était prêtre. Et cela a surpris tout le monde, parce qu'on s'est dit « ça n'a pas de bon sens, il ne peut pas être prêtre, il n'a quitté York quelques mois ». Il a dit que son but était de réconcilier les Anglicans avec l'Église catholique. Il regrettait que sa mauvaise santé l'ait empêché d'accomplir tout le travail qu'il aurait voulu. Alors on lui a dit qu'il avait travaillé suffisamment pour être condamné. Et il s'est écrié tout de suite « Dieu soit béni ». Et à la question « Prendriez-vous les armes contre les troupes papales s'ils envahissaient le royaume d'Angleterre ?» Alors il a répondu « Quand cela se produira, je me conduirai en bon patriote anglais. » Et là, on lui a posé une autre question « Êtes-vous prêt à combattre le pape actuellement ?» Puis il leur dit « Non ». Alors là, il est demeuré 3 mois en prison, un certain temps dans les fers, parmi des criminels de droit commun, et grâce à lui, certains se sont convertis au catholicisme et ont refusé d'écouter les objurgations des ministres anglicans ou des ministres protestants. Et là, l'abbé Thompson a été pendu à York, mais il n'a pas été traîné ni dépecé. On l'a respecté. Il disait que le jour de son exécution était le plus joyeux jour de sa vie. Et avant de mourir, il a prié, il a protesté sa loyauté envers la reine. Et comme il montait à l'échafaud, il s'est tourné pour dire, « J'ai oublié une chose. Je vous prie tous de rendre témoignage que je meurs dans la foi catholique. » Et lorsqu'il pendait au gibet, étouffant, râlant et se débattant, les spectateurs ont remarqué avec une grande surprise qu'il faisait de la main droite un signe de croix. On l'enterrit sous l'échafaud, puis il a été béatifié par Léon XIII.